Bonsoir, il est 20h01 et vous êtes sur Radio Campus. C'est Déshabillez-moi, le rendez-vous philosophique de Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi.
Est-ce que tu as l'impression que la société dans laquelle on vit traite également les hommes et les femmes ?
De mon point de vue, oui, grosso modo.
Ça dépend en fait, parce que je sais que dans certaines entreprises, être une femme, c'est assez dur. Enfin, déjà au niveau du salaire, le vis-à-vis de tes collègues et tout. Enfin, les gens ne respectent pas les femmes de la même manière. Aussi les hommes, des fois.
J'ai toujours eu l'impression, bon, certes qu'il y a des différences, des jeux plus garçons, des jeux plus filles, ou tout ça, enfin, là je parle de l'école, mais que...
De manière générale, oui, il y a, dans les lois, on essaie de faire en sorte que les hommes et les femmes soient... Les égaux les uns par rapport aux autres, c'est pas forcément encore parfait partout.
Est-ce qu'en tant qu'homme, je me sens l'égal des femmes ? Ça dépend sur quel point de vue. Je me sens, ouais, elle est l'égal au niveau des droits, mais pas forcément au niveau du regard des autres gens.
Ouais, j'ai jamais vraiment senti, déjà au niveau de, je prends l'exemple de ma famille, je sais que c'est ma mère qui conduit, c'est ma mère qui fait le bricolage, même dans mon éducation, en tout cas... À la maison, je ne l'ai pas du tout ressenti comme une inégalité. Genre, il y a des choses qui sont réservées aux garçons, d'autres aux filles.
Dans ma famille, avec ma sœur, on a pratiquement le même âge, mais on est égal. On faisait toujours les mêmes choses. Hein. Que ce soit le ménage, la cuisine et tout ça, on était...
Parce que, enfin, on est différents, on est égaux sur plusieurs points, mais on est différents quand même. Faut pas l'oublier, on est quand même différents. Au niveau de notre caractère, de notre physique et tout ça, et voilà, et au niveau de comment nous voient les employeurs également.
Le fait est que depuis tout petit, on te dit sois l'égal de l'homme, il faut que tu sois l'égal de l'homme, c'est un peu comme si c'était une obligation, donc bah oui, du coup.
Hein ? Qu'est-ce qui fait de moi un homme ? Du coup, à part le physique, du coup, imagine, enfin, à part les... Bah, je sais pas, enfin oui, bah, génétiquement, il y a des choses qui font que je suis un homme, qui développe physiquement. Un modèle plutôt de modèle masculin, du coup, au niveau de l'espèce humaine, quoi, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, je me suis jamais trop posé la question, en fait, parce que du coup,
pourquoi je suis une femme ? Je sais pas, c'est trop compliqué, franchement.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me contacter.
Bonsoir à tous, chers et tendres auditeurs. Ce soir, Déshabillez-moi n'a jamais porté son nom aussi bien, n'est-ce pas, Mélanie ?
Tout à fait, Anaïs.
Bonsoir, Mélanie.
Bonsoir.
Alors que l'obscurantisme bat son plein en ce moment, hein, personne ne me dira le contraire, que l'homophobie, l'antisémitisme et les racismes en tout genre ne taisent plus leur nom et s'affichent sans rougir dans les rues de ce pays où l'air se fait de plus en plus irrespirable, Déshabillez-moi part en croisade. Après les manifs anti-mariage pour tous, les réunions des fascisants du dimanche et ceux qui veulent s'en prendre aux droits des femmes à disposer de leur corps, notre émission s'attaque ce soir au dernier cheval de bataille d'une France frileuse et rétrograde, les théories du genre ou gender studies, nous en débattrons un peu plus tard. Déshabillez-moi, déshabille donc ce soir les préjugés. Sous les vêtements, il y a le corps, mais et après ? L'identité sexuelle est-elle entièrement déterminée par le sexe biologique ? N'est-on fille ou garçon, ou notre genre est-il le fruit d'un travail plus ou moins silencieux d'identification successive ? Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mais alors, donc, les théories du genre ou gender studies s'échinent à déconstruire les identités sexuelles afin de faire le tri entre ce qui relève du déterminisme biologique et ce qui appartient à la construction sociale. Les théories du genre cherchent également à interroger et déconstruire les rapports de domination fondés sur les identités sexuelles socialement déterminées. Vous l'aurez donc tous compris, Déshabillez-moi creuse ce soir la question du genre. Sujet d'une récente polémique, les théories du genre sont en réalité méconnues par les non-spécialistes et subissent une publicité défavorable issue d'une vulgarisation fallacieuse. Après l'organisation les 24 et 27 janvier de la journée baptisée Retrait de l'école, j'imagine que vous en avez entendu parler, donc journée retrait de l'école en protestation à l'enseignement supposé des théories du genre à l'école, il nous semblait, à déshabiller moi, plus qu'urgent d'essayer d'éclairer ce soir ce que cache le terme théorie du genre. Un bref rappel des faits, un appel au boycott, entendre retirer les enfants de l'école, a été lancé par Farida Belghoul, figure aujourd'hui proche de la formation d'extrême droite Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, oui, toujours lui, afin de s'opposer à cet enseignement prétendu des théories du genre. Plusieurs journées retrait de l'école sont prévues dans les mois à venir. Alors, mais en fait, on va quand même se demander pourquoi les théories du genre font-elles peur. Après tout, ce reste des théories. Que l'organisation d'Alain Soral, proche de Dieudonné et partisan de l'ignorance généralisée quand il ne s'attaque pas aux vérités historiques, s'inquiète de voir remise en cause la construction genrée des rapports de domination, cela ne nous étonne pas vraiment. Mais pourquoi cet appel a-t-il rencontré un certain écho ? Qu'est-ce que les théories du genre viennent bouleverser ? En quoi questionnent-elles les rapports sociaux ? Et pourquoi seraient-elles un danger pour nos enfants ? Bref, les théories du genre, c'est quoi ? Car en appeler à une journée retrait de l'école, c'est priver nos enfants d'instruction, c'est considérer que le savoir peut être dangereux et qui exposer de jeunes caboches prétendument influençables serait une menace pour l'ordre établi. Les journées retrait de l'école sont des apologies de l'ignorance et Déshabillez-moi se devait de creuser le sujet. C'est ce que nous ferons ce soir avec notre invité. Comme à notre habitude, nous ne vous révélerons son identité qu'à la fin de l'émission afin de préserver votre écoute de tous les préjugés qui pourraient venir ternir les propos développés.
Et vous ?
Déshabillez-vous !
Alors on n'a que Myriam, que je n'ai pas encore saluée, un peu tardivement. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Anaïs.
Alors je vais tout de suite céder la parole à Mélanie qui a quelques questions à te poser, il me semble.
J'ai quelques questions à lui poser, effectivement. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Anaïs.
Et merci d'être Mélanie.
Mélanie.
C'est pas grave.
Mélanie, c'est la théorie Anaïs. Du genre, on confond les prénoms
c'est
aussi.
Ça. Sinon on peut tous appeler Anaïs ce soir.
Très bien,
oui.
Ce sera vachement pratique pour que l'auditeur nous suive. Alors bah, pour commencer, on va... Anaïs, tu parlais d'ignorance dans ton édito. Alors avant de penser directement et de parler directement des problématiques qui ont été soulevées ces derniers temps avec le boycott des théories du genre, le boycott des écoles, etc. On va d'abord essayer de comprendre en fait ce que sont les théories du genre parce que ça semble un peu flou pour tout le monde. Alors est-ce que tu peux d'abord nous expliquer quand ces théories du genre sont arrivées, quels sont les concepts phares, est-ce qu'on peut parler vraiment de théorie du genre ou pas ?
Alors pour moi non, clairement pas, on peut pas parler de théorie du genre au pluriel ou au singulier. Les études de genre, ce sont avant tout des études qui se rattachent à la sociologie, à l'anthropologie, à l'histoire. Donc c'est pas des disciplines théoriques, c'est des disciplines concrètes qui s'appuient sur des terrains concrets, sur des archives, des personnes, des observations, etc. Donc parler de théorie, ça me semble placer le curseur très très loin par rapport à ce que constituent ces disciplines, c'est-à-dire se baser sur le concret, sur le social, etc.
Mais alors par exemple, parce que c'est vrai que la question elle se pose pour pas mal de sciences humaines en général, notamment en sociologie, il est vrai que la sociologie c'est avant tout de la recherche, c'est-à-dire des enquêtes avec une méthodologie propre à cette discipline, mais par exemple... Les enquêtes sociologiques de Bourdieu, elles ont donné lieu à l'émergence de théories. Donc est-ce que dans le champ du genre, on peut parler de la même manière d'études de genre qui ont donné naissance à des théories du genre ?
J'ai envie de répondre oui et non, comme souvent j'imagine. dans la mesure où, on va sûrement y revenir, mais les études de genre viennent avant tout des études sur les femmes, donc du féminisme. Mm-hmm. Et à ce titre-là, il y a des penseurs et surtout des penseuses du genre qui, elles, effectivement, vont écrire des théories. Enfin, la plus connue et la plus vilipendée récemment en France, ça va être Judith Butler avec la théorie queer. Donc il y a quelques théories comme ça, des penseuses, je pense notamment à Christine Delphi, que j'apprécie beaucoup, Nicole Claude-Mathieu, etc., qui vont réfléchir à la place des femmes d'un point de vue théorique, même si ça prétend décrire la réalité, c'est quand même pas basé sur les terrains auxquels je suis tellement attachée. Mais il me semble que la sociologie du genre, l'anthropologie du genre, etc., ça, c'est pas vraiment des théories, ce sont vraiment des enquêtes.
D'accord. Donc du coup, ces théories qui n'en sont pas, ces enquêtes, elles sont quand même fondées sur des concepts, ou en tout cas, elles produisent des concepts. Quels sont les concepts phares à ne pas manquer quand on s'intéresse à la question du genre et aux questions féministes ?
Oh, c'est difficile de répondre aussi rapidement.
Prends ton temps.
Nous avons une heure devant nous.
Fort bien. Tout d'abord, je pense que l'un des présupposés propres aux sciences humaines, ça va être de se dire que ce qu'on considère comme culturel, comme naturel, ou propre à une culture en général, ne doit pas être pris comme donné, comme naturel, comme biologique, etc. Il faut essayer de montrer dans quelle mesure c'est construit socialement, comment finalement ce qui nous paraît tellement naturel à l'âge adulte, le stéréotype selon lequel les femmes sont plus douces, plus altruistes, les hommes plus compétitifs, etc. Tout ça, ça sort pas nulle part, ça sort pas de la testostérone et des œstrogènes. Ça a été construit par des injonctions répétées pendant toute la socialisation de l'enfance, dans la famille, à l'école, puis dans le monde de l'entreprise, dans le monde universitaire, des études, etc. Par des prescriptions différenciées qu'on va faire aux filles et aux garçons. On va décourager, par exemple, pendant la petite enfance, que ce soit les parents ou les professionnels de la petite enfance, etc., vont décourager des comportements un peu agressifs de la part des filles. Inversement, on a tous en tête le stéréotype de « pleure pas, t'es pas une fille » qu'on adresse à un garçon, etc. Donc voilà, déjà partir du point de vue que les comportements qu'on perçoit comme sexués sont peut-être pas l'objet, enfin, issus de la biologie, mais d'injonctions qui ont été produites par le social tout au long de la vie.
C'est ça, il y a cette, pardon, Anaïs, non, cette opposition entre la biologie et la construction sociale, et on a l'impression donc c'est sur cette opposition-là que se fondent toutes les craintes de ces théories du genre, celles qu'on appelle théories du genre, en disant mais est-ce que on va pas apprendre à nos petits garçons de ne plus être des petits garçons finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire fi des différences de genre, des différences biologiques, en disant il y a pas de garçons, il y a pas de filles, et j'ai l'impression que c'est ça là-dedans qui est cristallisé, c'est toutes ces craintes. Est-ce que j'ai raison ou pas, et pour quelles raisons ça fait si peur?
Peut-être parce que les différences qu'on attribue au sexe sont pas si naturelles que ça, tout simplement. Mmh. Notre société est basée sur des présupposés sexistes, ça me semble assez évident. L'idée que les femmes, comme elles portent des enfants, elles sont différentes de l'homme. En général, quand on étudie un peu ça, on se rend compte que c'est souvent la femme qui est pensée comme différente de l'homme plutôt que l'inverse. L'homme serait un espèce d'universel neutre.
Et l'homme serait un étalon, quoi.
Oui, voilà, l'homme serait un étalon, exactement, merci. Et je pense vraiment, en ce qui concerne les critiques concernant la théorie du genre, il y a aussi une peur profonde de l'homosexualité. C'est-à-dire le fait de dire, finalement, être hétérosexuel, c'est pas plus ou moins naturel qu'être homosexuel ou autre chose, ou bisexuel, ou pansexuel, ou asexuel, enfin, il y a plein de sexualités différentes.
Alors, pansexuel, moi, je le connais pas.
Pan comme tout. Donc, pansexuel, c'est le fait d'être attiré par une personne indépendamment de son sexe, de son genre, d'accord, et de toutes ces différences-là.
Ok,
d'accord.
Donc voilà, la crainte de dire finalement être homosexuel c'est pas pire qu'être hétérosexuel, d'ailleurs c'est tout aussi naturel ou aussi peu naturel comme on veut.
D'accord, parce que d'ailleurs c'est vrai que ces théories féministes, donc tu disais que les théories du genre, enfin celles qu'on appelle gender studies, découlent finalement des théories féministes, et les théories féministes ont très rapidement intégré une théorie, une théorie queer à l'intérieur de ces théories. Pour quelles raisons est-ce que les féministes sont allées voir du côté des théories homosexuelles et théories queer?
Je dirais pas très rapidement, personnellement. Ouais. Je pense que historiquement, et en France, à plus forte raison qu'aux États-Unis, on est resté quand même très sur un paradigme. Il y a des hommes, il y a des femmes, et c'est pas pareil. On va étudier ce que ça change. Il me semble que c'est assez récent en France. Enfin, Judith Butler a été traduite assez tardivement, finalement, en France.
Il y a encore des ouvrages non traduits de Judith Butler, je crois.
C'est un grand drame pour les féministes. Pourquoi les féministes se sont intéressées à ça? Je pense qu'il y a l'idée à la base d'une communauté de lutte entre les femmes qui sont une minorité, enfin pas statistiquement mais du point de vue du statut, et avec les personnes LGBT comme on dit, donc lesbiennes, gays, bi, trans, maintenant on peut rajouter des appellations, queer, questioning, etc. Mais bon, on va partir sur...
Questioning, c'est quoi?
Des personnes qui se questionnent sur leur orientation sexuelle.
D'accord,
tout simplement. Bon, en tout cas, l'idée qu'on est deux minorités, les personnes LGBT, les femmes, et parfois des personnes à l'intersection des deux, des femmes lesbiennes, et qu'on a tout à gagner à déconstruire ces stéréotypes de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, ça va nous bénéficier à ces deux grands groupes minoritaires.
Mais alors, en fait, parce qu'il y a aussi des théories assez révolutionnaires, notamment chez Judith Butler, en fait, parce que déconstruire la construction du genre, dire que le genre n'est pas une donnée biologique déterminée une fois pour toutes, ça pose la question de la famille, en fait, et des structures sociales qui sont une espèce de choses qu'on a l'impression, qu'on pense immuables et qui pourraient ne pas changer. Donc, qu'est-ce que vont dire, en général, les théories du genre sur la famille?
C'est un peu compliqué de répondre. Qu'est-ce que va dire? Alors,
certaines, peut-être Judith Butler, peut-être qu'on peut se contenter de Judith Butler.
Ce sera déjà pas mal.
C'est déjà assez.
Je
ne
sais
dense.
Pas trop ce que dit Judith Butler sur la famille. Mais c'est vrai que les études féministes se sont d'abord intéressées à la famille, en France en tout cas, comme foyer de l'oppression des femmes, avec l'idée que la division inégale du travail, enfin, division sexuée du travail, bénéficie aux hommes et était au détriment des femmes. C'est-à-dire que les femmes se voient la charge, enfin, attribuer la charge des enfants, la charge du ménage, la charge de la tenue du foyer et parfois d'autres attributions suivant la profession ou la situation de leur mari, etc. Et que cette division est injuste puisque les femmes ne reçoivent pas de salaire, pas de reconnaissance, elles n'ont pas de congé. Je veux dire, être une mère et une épouse, c'est non-stop, etc. Et donc, toutes ces raisons font que ce travail est inégal par rapport à celui des hommes. Donc, à la base de certaines études de genre, en tout cas des féministes plutôt, il y a cette famille hétérosexuelle qui n'était pas forcément remise en question. Enfin, on pensait d'abord l'inégalité, l'oppression des femmes au sein de la famille. Mais seulement, pas seulement, mais d'abord dans ce cadre-là. Et d'où découlait une oppression dans le travail, dans la sphère publique, etc. Aujourd'hui, les études de genre vont s'intéresser aux familles homoparentales, aux couples homosexuels, qu'ils aient ou non des enfants, etc. Et finalement, ils montrent que ces couples, ils sont assez conventionnels, enfin, ils répondent assez bien à nos stéréotypes, à nos critères en termes de famille hétérosexuelle, et que finalement, c'est pas un si gros bouleversement que ça d'avoir deux mamans ou deux papas. Et au contraire, les parents homosexuels vont avoir tendance à en faire encore plus dans la conformité pour montrer que bah non, on n'est pas menaçant, on est comme vous, on veut la même chose que vous, et tout va bien se passer, quoi.
D'accord. Mais alors, juste, donc, Judith Butler, c'est pas forcément ton domaine de connaissance, c'est pas très grave. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, elle dit, en fait, elle va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle déconstruit l'idée même de famille en disant la famille, sur le mode hétérosexuel traditionnel, c'est quelque chose qu'il faut évacuer, qu'il faut éradiquer de la civilisation, de la société.
Un peu comme chez Platon, quoi.
C'est ça. Et donc, bon, mais alors, donc, Judith Butler, t'es pas fan, mais par contre, tu nous as ramené un texte que tu as envie de partager avec nous d'un auteur. D'une auteure, on dit une auteure maintenant. Et donc, Myriam, nous allons écouter ce que cette auteure a à nous dire.
Est-ce que d'abord, tu peux nous dire qui c'est ?
Oui, c'est vrai.
Alors, il s'agit de Christine Delphi, dont j'ai parlé de mon attachement un peu plus tôt. Donc, dans l'ennemi principal.
Vas-y.
La thèse de Mead est, pour la résumer très brièvement, la suivante. La plupart des sociétés partagent l'univers des traits de caractère humain en deux. Elle en attribue une minorité aux hommes et l'autre aux femmes. Pour Mead, cette division est parfaitement arbitraire. Anoclet. Le mot « sexe » se réfère aux différences biologiques entre les mâles et femelles, à la différence visible entre leurs organes génitaux et à la différence corrélative entre leurs fonctions procréatives. Le genre, lui, est une question de culture. Il se réfère à la classification sociale en masculin et féminin. On continue de penser le genre en termes de sexe. Elle l'envisage comme une dichotomie sociale déterminée par une dichotomie naturelle. En somme, le genre serait un contenu et le sexe un contenant. Le contenu peut varier, et certains estiment qu'il doit varier. Mais le contenant est conçu comme invariable. Il est la nature, ce qui ne bouge pas, et de cette nature semble faire partie une vocation à recevoir un contenu social. Le sexe est réputé venir avant, chronologiquement, et donc logiquement, que l'on explique pourquoi ou non. Penser le genre, c'est repenser la question de son rapport au sexe. Il faut non seulement admettre, mais aussi travailler deux hypothèses. La première est que la coïncidence statistique entre le sexe et le genre n'est que cela. La deuxième est alors que le genre précède le sexe. Dans cette hypothèse, le sexe est simplement un marqueur de la division sociale. Il sert à reconnaître et identifier les dominants des dominés. Il est un signe. Comme il ne distingue pas n'importe qui et n'importe quoi, et surtout pas de valeur équivalente, il acquiert dans l'histoire valeur et symbole.
Merci Myriam. Donc c'est un texte extrait d'un ouvrage. Est-ce que tu peux rappeler le titre de l'ouvrage de Christine Delphi, s'il te plaît ?
Oui, alors c'est L'ennemi principal, tome 2, Penser le genre.
Donc c'est un peu un basique des questions, des théories, des questions du genre.
Je dirais plutôt un classique des études féministes. Mais
d'accord.
Il me semblait qu'en l'occurrence, ça permettait bien de poser les termes du débat entre sexe et genre et de les poser peut-être d'une façon un peu différente de celle dont on a d'habitude.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc, du coup, cette différence ? Donc, on a une différence chronologique entre le sexe et le genre. À un moment, on dit donc, que le sexe vient avant, puis le genre vient après. Puis finalement, on réinverse le rapport. Donc le genre viendrait avant, le sexe après. Qu'est-ce qu'il en est réellement alors ?
Oui, alors c'est le grand intérêt de ce texte. alors... Effectivement, on a tendance à penser traditionnellement dans les études de genre, il y a le sexe, c'est le biologique, c'est les organes génitaux, c'est les différences qui apparaissent à la puberté entre les hommes et les femmes. Puis il y a le genre, et ça c'est tout le reste, c'est tout ce que la société va sédimenter à partir de cette différence biologique. Mais Christine Delphi va un peu plus loin, donc dans ce qu'elle identifie comme une sorte de troisième temps, en disant finalement on a fait du sexe une différence sociale signifiante, le fait de dire qu'un homme et une femme c'est quand même pas pareil, Mais finalement, ça aurait pu ne pas être. On aurait pu faire une différence sociale entre les blonds et les bruns, ou entre les, enfin, des choses comme ça. On n'est pas obligé d'identifier le sexe comme une variable signifiante sur le plan social.
Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, toi tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. C'est beaucoup mieux comme ça.
Vous l'aurez reconnu, c'était Sylvie Vartan avec Comme un garçon.
Déshabillez-moi.
On retrouve Myriam et Mélanie.
Tout à fait, nous sommes toujours là, ça tombe très bien.
Sur Radio Campus, il est 20h23.
C'est ça, j'allais le rappeler. Déshabillez-moi sur Radio Campus Paris. Eh bien, on va écouter un petit extrait pour relancer donc, la seconde partie de l'entretien. On va plutôt s'intéresser à l'éducation des filles et à leur rôle dans la sphère publique. Mais d'abord, on va écouter un petit extrait d'un documentaire qui date de 2007, qui a été réalisé par Patrick Jean et qui s'appelle « La domination masculine ».
Je ne sais pas si vous voulez des explications en même temps sur les...
Oui, oui, oui.
Parce que là, dans le domaine de l'imitation, vous avez tout ce qui est cuisine.
Ça plaît beaucoup.
Mais ça, c'est spécialement pour les filles. Hein. Donc toujours dans le but que l'enfant puisse imiter maman, ce qu'elle fait toute la journée, en fait. Jamais on a vendu ça pour un petit garçon. Donc les petites balayettes. Donc là, l'imitation d'anciens balais, quand même, on trouve plus ça aujourd'hui. Et donc là, comme à la maison, encore une fois, pour imiter maman... Par expérience, ça on voit tout de suite quand même que c'est un produit qui va plus intéresser les filles que les garçons. Et donc celle-ci, c'est juste des petites figurines, mais par contre elles ont toute une odeur. Donc Charlotte aux fraises a l'odeur de la fraise. Non, c'est aussi chez les garçons, mais c'est pas le même style d'odeur. On va dire que... Enfin là, il y a quelques années, ils avaient sorti un produit en fait où on grattait, et ça avait des odeurs, mais plus des odeurs de poubelle, des odeurs de pied. Donc ça c'est pour les garçons. Et pour les filles, ça sent la fraise et la rose.
On va demander à notre réalisateur Maxime, t'aimes bien les odeurs de poubelle et de pieds ?
Non. J'aime bien l'odeur de poubelle quand elle m'alarme sur le fait que je dois vider la poubelle.
D'accord.
Mais uniquement dans ce cadre-là.
Merci Maxime. Alors Myriam, tu as entendu donc cet extrait qui était donc tiré de La domination masculine. On était dans un magasin de jouets et donc le vendeur nous explique la différence entre les jouets des garçons et les jouets des filles. Qu'est-ce que tu peux en dire, Myriam ?
J'ai beaucoup aimé la remarque du vendeur. Oui, par expérience, on les vend plutôt aux filles qu'aux garçons. On peut avoir des doutes sur la validité de cette expérience. Il me semble qu'on assiste depuis une vingtaine d'années, sûrement plus, sûrement moins, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, un vrai marketing genré, avec l'idée que si on fait des produits pour les filles et des produits pour les garçons, bah on en vendra deux fois plus que si les mêmes jouets servaient à la fois aux filles et aux garçons.
C'est-à-dire que, oui, c'est ça, il faut des jouets qui soient pour les garçons, des jouets pour les filles, comme ça on est sûr qu'en plus, alors que si on avait un jouet qui était unisexe, finalement ça marcherait moins bien.
Bah, on le vendrait qu'une fois, c'est dommage qu'on peut en vendre deux. Oui, et il me semble qu'il y a aussi des très fortes pressions sur les parents, qui pèsent sur les parents, ou sur les professionnels de la petite enfance aussi, qui sont amenés à interagir avec les enfants, sur l'idée que, oh, mon Dieu, si on donne un jouet de fille à un garçon, ou inversement, ça va être terrible, ça va détruire son identité, si c'est un garçon, il va devenir gay, ça va être horrible. Bon, si c'est une fille, c'est moins grave, parce que bon, un garçon manqué, c'est pas top, mais c'est moins pire qu'un gay quand même. Non, mais il faut dire ce qui est. Non, et donc voilà, il me semble qu'il y a des pressions qui vont peser sur l'ensemble des proches de la famille en disant « Mais tu te rends pas compte, si tu lui donnes une cuisinière, mais on sait pas ce qui va devenir dans 10 ans ?»
Mon Dieu, quoi.
Il me semble qu'il y a une vraie panique morale, mais qui est consécutive finalement au fait qu'on ait sexué, genré les jouets. Je pense pas qu'on se posait ces questions quand il y avait peut-être moins de différenciation dans les jouets féminins et masculins.
Où il y avait beaucoup moins de jouets aussi à une époque, j'imagine.
Voilà,
que...
il y avait beaucoup moins de jouets, il y avait moins de consommation. Oui,
moins de marketing.
Moins de marketing. Exactement. C'est vrai, quand on regarde les petits magazines catalogues au moment de Noël, au moment des fêtes, avec tous les jouets, avec les pages roses pour les filles, les pages bleues pour les garçons. Et donc, dans la suite de ce documentaire, le vendeur explique que les garçons ont beaucoup plus d'imagination que les filles. Et que donc, les petits garçons peuvent avoir des jouets où ils sont obligés d'utiliser leur imagination pour intégrer leur petit Action Man dans un monde un peu nouveau, un peu rigolo, alors que les filles finalement elles sont plutôt dans l'imitation de leur mère et donc elles n'ont pas tant d'imagination que ça, elles ne peuvent que rester en fait dans leurs conditions féminines et qui les obligerait donc à rester dans ce cadre, dans ce moule, quoi.
Mais attends, il faut vachement d'imagination pour habiller Barbie hyper fashion, tu vois. Je suis désolée, quoi.
Ne sois pas sexiste, les pauvres petites filles.
C'est pas mon genre.
Oui, non, mais là, encore une fois, il me semble qu'il y a un peu une inversion du paradigme. Je pense pas que naturellement les petites filles aient moins d'imagination que les garçons, mais effectivement, on va pousser les garçons vers des jouets qu'on construit. Je pense au Lego, par exemple, des choses comme ça. Des jouets où il s'agit de fabriquer des choses, où il s'agit effectivement d'imaginer, d'utiliser son imagination, de petits bricolos, des choses comme ça. Tandis que les filles, il y a l'idée que plus tard, ce sera quand même des mamans. Il faudrait quand même qu'elles apprennent dès le début qu'elles ont un instinct maternel, quoi.
Ça, donc finalement, il y a quand même cet apprentissage. Il faut leur apprendre. Apprendre aux filles très rapidement, les éduquer à devenir quelqu'un et avoir tel ou tel rôle au sein de la société.
Alors, je ne sais pas si cette volonté est consciente, l'idée d'inculquer aux petites filles ce genre de choses, mais c'est peut-être le serpent qui se mord la queue aussi, en se disant que les petites filles auront un instinct maternel ou ont déjà un instinct maternel, on va leur donner des jouets adaptés, etc. Mais le fait est qu'en prescrivant tel jouet pour les filles, tel jouet pour les garçons, c'est à ça qu'on aboutit.
Il y a aussi ces livres pour enfants, les livres de métier, donc ça c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, les livres pour métier dans lesquels il y a toujours un médecin, une infirmière, un pompier, une caissière... un pharmacien, une fleuriste, enfin ce genre de choses, où donc on voit bien très rapidement comment vont se diviser les rôles au sein de la société.
Oui, tout à fait. Plusieurs études ont été menées là-dessus et montrent finalement qu'il y a toujours des stéréotypes dans ce genre, que ce soit les manuels adressés aux primaires ou aux jeunes, ces livres pour enfants, etc. Vraiment, les femmes vont être cantonnées à la sphère privée et à l'intérieur du foyer, tandis que si le père est représenté au sein du foyer, ça va être plutôt à l'extérieur, en train de faire du jardinage, du bricolage, des choses comme ça. Il y a le fait que la différence sexuée est marquée sur les femmes, donc on en revient à la question du masculin neutre et de la femme qui est marquée avec les cils plus longs, des petits nœuds, des robes, etc. Tandis que l'homme va être neutre, va juste être un homme finalement, etc. Donc ça pose des questions en termes de projection de l'imaginaire des petites filles, plus que des petits garçons, mais aussi dans les rôles qu'ils et elles pourront jouer plus tard.
Anaïs.
Ouais, et donc en fait, je regardais une interview tout à l'heure de Pierre Bourdieu, donc, qui a écrit La domination masculine.
Anaïs, quand elle ne sait pas quoi faire, regardez l'interview de Pierre Bourdieu.
Pardon. Anaïs, elle essaie de faire la promotion de Déshabillez-moi, et donc elle cherche des vidéos marrantes qui amusent l'internaute, sauf que cette vidéo n'était pas assez drôle, et donc Anaïs ne s'en est pas servie. Néanmoins, elle était fort intéressante, et donc Pierre Bourdieu expliquait que cette distinction de répartition de rôles sociaux en fonction du sexe et du genre, elle était, il y avait en fait deux dimensions. Une dimension à la fois objective, c'est-à-dire que la société amenait les garçons à occuper un certain type de fonction sociale en distribuant dès l'enfant, en vantant dès l'enfance certains jouets pour les garçons, certains jouets pour les filles. Donc il y a ce cadre objectif-là. Et il parlait d'un cadre aussi très subjectif qui était du coup sûrement lié à l'assimilation de ce message social par les individus, qui faisait que les individus, subjectivement, leur fort intérieur, reproduisaient en fait ces schémas-là et l'intégraient à leur discours de manière évidente. Bah oui, je suis une fille, je suis sensible, par exemple. Alors moi, j'aimerais savoir comment les études de genre, les gender studies, essayent de déconstruire ces idées-là et peut-être de promouvoir une autre forme de discours social.
Bah justement, en s'intéressant à la socialisation de la prime enfance, c'est très intéressant de voir comment des parents qui disent « Non, mais mes filles et mes garçons, je les éduque pareil », qui essaient de promouvoir cette égalité, qui est vraiment entrée dans les mœurs, vont finalement, à leur insu, dans leur inconscient, reproduire des comportements différents, avec des prescriptions différentes, etc. Donc oui, effectivement, il y a les deux dimensions, et c'est bien l'une des difficultés des études de genre, d'essayer de se dire « Oui, bah, les individus pensent qu'ils sont naturellement comme ça ». C'est pas exactement le cas.
Donc est-ce qu'on pourrait dire que les études de genre en fait déconstruisent vraiment la notion de naturel? Est-ce que c'est ça en fait le cheval de bataille peut-être des études de genre?
C'est pas vraiment le cheval de bataille. C'est vrai qu'en Occident, il me semble qu'on pense assez avec ces oppositions binaires genre nature, culture, etc. Et la notion de sexe et genre finalement c'est basé là-dessus. Après il y a certaines études qui vont essayer de déconstruire cette idée même, notamment avec les questions d'interaction finalement entre les deux. Enfin, je pense notamment à un ouvrage collectif dirigé par Ilana Lowy qui s'appelle L'invention du naturel, où ils essaient de montrer finalement comment les présupposés sexistes et genrés des chercheurs ont pu influencer leur façon de voir le biologique. Enfin, il y a un exemple qui est vraiment inestimable, je ne sais pas s'il est dans cet ouvrage mais j'avais entendu lors de l'un de mes cours. Le fait que en biologie, en SVT, en troisième, on va dire, lors des études sur la reproduction, on va vous apprendre que le fœtus, au début, c'est une fille, et puis s'il a le gène SRI, ça va devenir un garçon, c'est un processus actif, et s'il l'a pas, ça va devenir une femme passivement, enfin une fille. Et en fait, en continuant ces études, on s'est rendu compte qu'il y avait bien un gène qui permettait la différenciation vers la fille. Enfin, on ne devient pas une fille par défaut. Mmh. Il y a vraiment un gène qui dirige à ça. Et finalement, c'est présupposé des chercheurs en se disant « on devient un homme, c'est quelque chose d'actif ». Dans le cas d'une femme, c'est un peu la solution de facilité, la solution qu'on prend par défaut.
Il y a toujours la notion de passivité aussi chez la femme.
Oui, oui.
La femme est plus passive, elle attend que ça arrive,
Oui, c'est ça. Et donc, ça a pu influencer la façon de voir des biologistes. Donc voilà, il y a des études qui vont déconstruire ça aussi. Ou même, un exemple que j'aime beaucoup, un ouvrage que j'aime beaucoup, « Corps en tout genre » d'Anne Fausto-Sterling, qui s'intéresse à la question des personnes intersexuées, c'est-à-dire les hermaphrodites, en montrant que, nous, on pense généralement à la société entre hommes et femmes, il y a des personnes qui ne sont ni hommes ni femmes et c'est pas grave.
D'accord, il y avait un texte aussi qui me semblait un peu intéressant pour venir peut-être en amont de ce débat-là, et c'est un texte de Merleau-Ponty justement sur le naturel et le culturel, et qui essaye justement de lutter contre cette distinction là, qui remet complètement en cause en disant ce qui peut nous sembler naturel en réalité est tout aussi construit, et ce qui nous semble culturel est peut-être aussi d'une certaine manière naturel, et donc il mêle un peu cette distinction. Donc est-ce que les études de genre finalement, elles arrivent vraiment à faire émerger un discours autre que le discours social dominant concernant les distinctions de genre? Est-ce qu'on en est là déjà ou pas encore?
C'est-à-dire, je peux développer
un peu. Est-ce que les études de genre ont réussi à faire reconnaître socialement finalement cette distinction de genre, elle n'était pas déterminée biologiquement et que finalement elle était le fruit d'une éducation, d'un message social global ou pas? Ou est-ce qu'on n'en est pas là encore,
Oui et non, dans la mesure où... j'aimerais croire que les études de genre ont un impact tel que ça a révolutionné les pratiques de plein de personnes. J'ai des doutes. Donc le fait est que même si on dénonce depuis maintenant quelques décennies les inégalités, les stéréotypes de sexe, etc., je ne suis pas sûre que ça a eu des effets, bien sûr, mais pas au point qu'on ait une expérience témoin qui nous dirait « Ah bah voilà, quand on éduque les personnes dans un environnement non sexiste, ça change tout ».
Pour faire l'amour. Ah, temps de t'aimer. Oui, mais toi, toute la journée, tu ne fais que me répéter.
Les filles, c'est fait pour faire l'amour.
Vont
répétant les filles
pour l'amour,
pour l'amour.
Les filles
pour l'amour,
pour l'amour.
Ah oui les filles,
oui les filles.
Ah oui les filles,
oui les filles.
Ah oui les filles,
oui les filles.
Ah oui les filles.
Non non je ne veux pas t'aimer, j'ai bien le temps d'y penser.
Bien connu, les filles, c'est fait pour faire l'amour. C'est le titre de cette chanson de Charlotte Leslie.
Déshabillez-moi.
Alors Myriam, tu voulais revenir rapidement sur la question du naturel, je crois.
Oui, simplement pour dire que cette façon de toujours poser la question qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas, ça me semble assez dangereux et pas très productif. Par exemple, on mange tous, c'est naturel, on a des besoins nutritif et pourtant c'est entouré de plein de culturels et c'est pas très grave. Enfin, c'est-à-dire que le fait que ce soit naturel ou pas ne devrait pas justifier des traitements différenciés. Finalement, il me semble qu'il faudrait se poser la question, est-ce que les différences entre les hommes et les femmes, en dehors du moment de la gestation proprement dit, le moment où la femme est enceinte, sont tellement énormes que ça justifie un traitement différencié des hommes et des femmes? Est-ce que c'est si important que ça?
Est-ce que c'est si important que ça? On va continuer à se poser la question et on va se questionner sur la sphère privée maintenant. On va se demander si à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la sphère domestique, il y a une égalité possible entre les hommes et les femmes ou pas. Et d'abord, on va écouter un petit extrait d'un reportage donc, qui a été fait au 34e salon des arts ménagers. Donc on entendra Pierre Tchernia tout de suite.
Mais vous ne pensez pas que l'homme est attiré par toute cette mécanique ménagère?
L'homme, ça l'amuse aussi de regarder les petits moteurs. Et puis, ça l'intéresse de voir comment on a pu résoudre les problèmes mécaniques qu'il passionne, enfin, du moins le dit-on. Je suis ravi que l'on mette au service de la femme des moyens si modernes de travailler, mais j'ai l'impression que malgré tout, voyez-vous, depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arts ménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Il existe plusieurs modèles que nous serons heureux de vous présenter sur les grands boulevards et les grandes avenues de Paris. Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles.
Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. C'était dans 1951, on ne peut plus dire ça aujourd'hui.
Je pense que ce serait assez mal perçu, mais néanmoins, parfois on peut se poser la question quand même.
Ouais, donc cet extrait, voilà, il sert à rien, mais il est juste très drôle. En tout cas, pour
incroyable quand même.
Pour montrer qu'on a quand même un tout petit peu évolué malgré tout dans tout ça et dans la perception aussi de la femme, qu'il y a pas, enfin, cet électroménager peut aussi intéresser les garçons et ils savent s'en servir même aujourd'hui.
Mais même Mélanie, tu m'apprenais il y a peu que en Suisse. Parce que Mélanie est d'origine suisse, pour ceux qui l'ignoraient encore.
Je pense que tout le monde l'ignorait. Mais
non, on l'a déjà dit plein de fois. Oui, il paraît qu'il y a des cours de cuisine, c'est ça, à l'école, mais pour tout le monde.
C'est ça, au collège. Donc, au collège. Tout le monde est obligé de faire des cours de cuisine, garçons et filles confondus. On apprend aussi à se servir d'une machine à laver et d'un fer à repasser pour repasser nos chemises.
Je trouve ça intéressant comme politique, tout de même. Donc, excuse-moi, je vous ai coupé.
Myriam, vas-y.
Oui, justement, je trouve ça assez intéressant. Donc, un extrait qui a quand même 60 ans, qui dit oui, mais c'est bon, maintenant qu'il y a la technique dans les arts ménagers, ça va intéresser les hommes. Eh bien, pas du tout. Enfin, à ma connaissance. En tout cas, aujourd'hui, la machine à laver, qui est sans doute l'outil le plus technique dont est amené à servir à peu près tous les couples ou toutes les personnes, n'est pas du tout maîtrisée par les hommes.
Et pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette sphère privée ? Pourquoi les hommes ne s'intéressent pas D'ailleurs, ce n'est pas forcément une question d'intérêt, puisque les femmes ne sont pas plus intéressées que les hommes aux tâches ménagères. Pourquoi ils ne s'investissent pas ?
Alors, il y a plusieurs mécanismes concurrents. Il y a le fait que c'est aux femmes qu'on va inculquer peut-être moins les compétences ménagères, mais que la préoccupation domestique, le fait de voir la poussière ou le désordre, etc., et le fait de se dire « Ah, il faut faire quelque chose », donc l'injonction à agir, qui va de pair avec le fait de voir ce désordre, voir ce ménage à faire, qu'on inculque pas ou moins aux hommes. Il y a le fait aussi les rares hommes qui vont faire mine de s'y intéresser dans le couple hétérosexuel, vont faire preuve d'un tout petit peu de bonne volonté, souvent sous pression de leur conjointe, vont tellement résister passivement en le faisant mal, en respectant pas les exigences de leur conjointe, ou en essayant de reporter à plus tard parce qu'ils ont des exigences en termes de propre étranger beaucoup plus basses. Donc pour eux, un évier plein, bon, bof, ça pose pas trop de problème. Pour une femme, une assiette qui traîne, c'est le drame. Bon, je caricature un tout petit peu. Donc voilà, il y a le fait que les rares hommes qui vont faire mine de peut-être donner un vague coup de main vont être assez rapidement découragés par leur conjointe qui va repasser derrière, qui va redonner des consignes, etc. Donc ils vont gentiment lâcher le bébé et laisser à leur femme ses préoccupations domestiques.
C'est dangereux de lâcher le bébé quand même.
Les femmes adorent changer les couches, selon Valérie Pécresse. Donc,
Valérie Pécresse a plein de bonnes idées comme ça.
Cette question-là de répartition des tâches ménagères, mais il y a une sorte de pression quand même sociale sur les pères et sur les hommes qui travaillent au foyer, où on a l'impression qu'un homme au foyer, c'est pas vraiment un homme.
Ah mais tout à fait. Donc j'ai enquêté sur les pères au foyer. Effectivement, ils subissent plein de stigmatisations de la part de leur entourage. Il y a le stigmate de l'homme chômeur. Ils sont très associés à l'inactivité, l'homme qui fout rien, l'homme paresseux, l'homme qui met les pieds sous la table, voire qui exploite sa conjointe. Bah oui, elle est au travail, lui non. Mon Dieu, ça veut dire qu'il profite d'elle. Il y a encore un fort stigmate du chômeur qui pèse sur l'homme inactif, même si c'est pour s'occuper de ses enfants.
Donc c'est pour toute la société, un homme qui travaille avec qui s'occupe de ses enfants ne travaille pas en réalité. D'ailleurs, une femme qui n'est qu'une femme au foyer, puisque souvent c'est plutôt ce qu'on entend, une femme qui n'est qu'une femme au foyer ne travaille pas non plus. C'est un peu un stéréotype.
Ouais, il y a le fait que me disaient les pères au foyer, quand c'est leur conjointe qui s'arrêtait, puisqu'en général ils vont alterner des congés, des choses comme ça, c'était normal, pas de remarques. Par contre, un homme qui est au foyer, soit ça va être, si c'est pour une durée limitée, un congé parental, 6 mois, ça va être oh, « c'est merveilleux, mais enfin, pour les femmes, j'aimerais bien que mon conjoint fasse ça ». C'est l'idée que c'est un peu le héros, mais qui revient, Dieu merci, dans la sphère du travail. Enfin, c'est bon, il n'est pas trop déviant, quoi. Il a dévié pendant 6 mois, bon, maintenant il revient dans la bergerie. Par contre, un homme qui dit « non, mais la sphère professionnelle, ça ne m'intéresse pas du tout, moi, j'adore les enfants, j'adore mes enfants, j'adore m'en occuper », là, il y a des stigmatismes sur lui. Je pense notamment à un de mes enquêtés qui m'avait dit un truc qui m'avait semblé totalement incroyable. Donc, c'était le seul père qui venait chercher ses enfants à l'intérieur de l'école à midi pour le déjeuner. Et c'était le seul homme à rentrer, parce que les autres parents, c'était des femmes. Et donc, il y avait une espèce de bruit de couloir, genre, oh, le pédophile potentiel rentre dans le mur. Donc, ça reste vraiment très, très violent, le stigmate, la peur de l'homme pédophile, un homme qui s'occupe de jeunes enfants et potentiellement un pédophile. Image qu'on a beaucoup moins pour une femme, un soupçon plutôt qu'on a beaucoup moins pour les femmes.
Maxime, vous voulez réagir ?
Juste une question, est-ce que cette stigmatisation de l'homme au foyer est lié à cette idée reçue selon laquelle, dans un couple hétérosexuel, l'homme a une vraie situation professionnelle tandis que la femme a une situation professionnelle qui est là pour apporter un complément financier au foyer?
Je suis pas sûre du tout. Mais il y a le fait de ne pas rentrer dans ce schéma, dans cet impératif social, aide beaucoup à devenir père au foyer. Enfin, la plupart des pères que j'avais rencontrés avaient effectivement des situations professionnelles moins bonnes que leurs conjointes. Ils n'aimaient pas leur travail, ils en avaient fait le tour, alors que leurs conjointes avaient des situations soit plus lucratives, soit plus sympas, plus intéressantes. Et elles n'avaient pas du tout envie de s'arrêter pour s'occuper de leurs enfants.
On a parlé tout à l'heure, tu as parlé du congé parental et donc du congé paternel. Donc les hommes maintenant ont aussi droit à leur congé quand ils ont des enfants, c'est assez récent. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer un peu quelles sont les implications dans tout cela et l'État qui vient s'immiscer un peu dans la vie privée finalement, dans la sphère privée, puisqu'il vient s'immiscer dans les histoires de couple. Comment ça se passe hein?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que maintenant, les hommes ont leur congé, pas avant. Enfin, le congé parental, c'est 77. Il a été ouvert aux hommes en 78. Mais bon, c'est l'idée que c'est l'un ou l'autre qui le prend. Je crois que c'était fractionnable, je ne sais pas à partir de quelle époque. Mais c'est vrai que ça restait un congé très marqué, féminin. Je crois que c'est 2% des hommes qui souscrivent au congé parental. Enfin, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, il y a eu le congé paternité en 2001, me semble-t-il, de 14 jours. Donc, pas grand-chose. Et effectivement, maintenant, il y a cette fameuse réforme où le deuxième parent est amené à prendre 6 mois... sur les 3 ans, sinon ils sont perdus. Alors, est-ce que l'État s'immisce dans la vie privée? Est-ce que c'est bien? En gros, c'est ça la question?
C'est à peu près ça, oui. Est-ce qu'il y a une ingérence finalement étatique et pourquoi cette ingérence étatique?
Alors oui, clairement, il y a une ingérence étatique qui découle du fait que on valorise aujourd'hui l'idée du partage des rôles, des tâches au sein du couple. L'idée que l'égalité, c'est quand même mieux que l'inégalité. Moi, ça ne me semble pas forcément négatif, puisque même si les mentalités ont changé, les pratiques ne changent pas du tout. Et je suis très, très, enfin, très contente de l'idée de ce congé qui va peut-être permettre de changer les pratiques en forçant, entre guillemets, des hommes à passer... Bon, ils ne sont pas obligés d'ailleurs, ils peuvent ne pas prendre ce congé parental. Mais un homme qui va passer 6 mois avec son enfant, bah, il va peut-être apprendre à le changer, il va peut-être apprendre à interagir avec lui dès la toute petite enfance. Et il va peut-être apprendre aussi à faire le ménage qu'il n'a pas forcément pris le temps de faire, eu le temps de faire quand il était encore en activité.
Anaïs.
Alors ouais, à propos d'ingérence étatique, justement, est-ce qu'on peut dire 2 mots, parce qu'on n'en a pas encore parlé, après on ne pourra plus en parler, de cette histoire donc qui a déchaîné les passions de l'enseignement des théories du genre à l'école. Donc, quid de ça?
Alors, bon... Déjà, la théorie du genre n'existe pas. Je pense qu'on a
ça, on l'a dit.
Ça, ok. Alors, il faut savoir que ça fait quand même un petit moment que la question des stéréotypes sexués est enseignée à l'école. C'est pas ça n'a rien de nouveau. C'est tout d'un coup certains militants se sont rendus compte que oh mon Dieu, et on enseignait le genre aux enfants, c'est terrible. Bon voilà, mais il y avait déjà eu une polémique il y a quelques années à propos des manuels des EVT qui enseigneraient la théorie du genre. Enfin, on disait juste que était homosexuel, c'est pas antinaturel, donc bon, voilà, c'était quand même limité comme théorie du genre. Donc voilà, rassurez-vous, on n'enseigne pas la théorie du genre ou quelque théorie que ce soit à l'école, on essaie juste de leur dire, bah, tu es une fille et tu veux devenir cosmonaute, bah c'est bien.
D'accord.
Tu as le droit.
D'accord, donc cette mesure, qu'est-ce qu'elle va changer cette mesure en fait, si tu sais un peu de quoi il s'agit?
Non, pas suffisamment.
Pas suffisamment, d'accord, très bien.
Eh bien, on a un peu fait le tour de la sphère privée, la sphère publique, et en même temps, on a l'impression que l'une et l'autre sont forcément imbriquées en permanence. Hein, donc, on ne peut pas séparer la sphère privée de la sphère publique. Et il y a cette question, moi, qui est une question assez intéressante et qui est beaucoup traitée par les théories féministes, qui est celle de la double journée. Donc, on se questionne sur le fait que voilà, les femmes feraient 2 journées. Donc, c'est-à-dire qu'elles travailleraient, donc elles auraient leur travail habituel, je sais pas, directrice d'un collège. Et le soir, quand elles rentrent, elles ont une 2e journée à faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs enfants, faire à manger, leur donner le bain, les coucher, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question de la double journée? Est-ce qu'elle est réelle d'abord? Est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que c'est pas en train de changer? Est-ce qu'il y a un effort qui est fait notamment par les hommes et par l'État pour essayer d'éviter ce genre de problème?
Alors oui, elle me semble tout à fait réelle. Quand on regarde les enquêtes emploi du temps, notamment de l'INSEE, on se rend compte que les femmes consacrent toujours plus de temps aux tâches ménagères et parentales. Même mes conjointes de père au foyer, elles avaient elles aussi une double journée parce qu'il y avait l'idée quand même que le père au foyer, bon, il avait passé la journée avec les gosses, ça suffit. Maintenant, une fois qu'elle est rentrée, c'était à la femme de s'en charger. Donc oui, même si les représentations ont changé, les pratiques dans les statistiques en termes de temps n'évoluent pas tant que ça.
We'll be right back.
c'était Aufgang avec la chanson, enfin la chanson, est-ce vraiment une chanson balkanique? On retrouve donc Myriam
et Mélanie.
Et Mélanie.
Déshabillez-moi.
Tu allais m'oublier, Anaïs.
Mais oui, j'allais t'oublier, mais c'est terrible.
Mais c'est pas grave.
C'est l'heure, il est tard.
Il est tard et il est l'heure. Il est l'heure de dévoiler un petit peu qui est notre invité ce soir, avec qui on discutait donc de ces questions du genre. Et on va te soumettre à un petit entretien psy, Myriam. Alors, est-ce que d'abord, tu peux nous raconter la première fois où tu as ressenti l'inégalité entre les hommes et les femmes? Ou toi, tu as senti qu'il y avait cette inégalité-là?
Je ne saurais pas répondre du tout. Je me souviens pas d'un choc. Enfin, d'un moment où je me serais dit, oh, mon Dieu, la société est trop méchante avec les femmes. Ou trop méchante avec les hommes, d'ailleurs. Il me semble que c'est une conviction que j'avais depuis un petit moment. Enfin, je me souviens, quand j'étais au collège, j'ai dit à mes copines, oh, mais ouais, le féminisme, c'est trop important parce que les femmes, elles sont trop maltraitées encore aujourd'hui. Mais c'était une conviction assez vague qui reposait pas vraiment sur des éléments concrets.
Est-ce qu'il y avait un moment où tu t'es sentie en infériorité, où tu t'es dit, je ne suis qu'une femme, finalement?
Pas vraiment. Par contre, un moment un peu similaire, enfin j'aime bien raconter parce que je trouve ça amusant. J'étais à une soirée LGBT, donc une soirée de rencontre, un speed dating, et je me suis dit, mon Dieu, mais ça se trouve toutes ces personnes vont penser que je suis homosexuelle ou bi, quelque chose comme ça, alors que je suis hétérosexuelle, et j'ai ressenti un peu ce que doivent ressentir les personnes homosexuelles, LGBT, etc. en temps normal, genre, avec ce présupposé d'hétérosexualité. Donc moi, j'étais dans un présupposé d'homosexualité, et ça m'a mis vraiment mal à l'aise.
D'accord.
C'était amusant comme situation.
Est-ce que tu peux nous dire comment étaient répartis les rôles au sein de ta famille?
Oh, assez traditionnel. Donc ma mère s'occupait de la cuisine, du ménage. Là, mon père a craqué un petit peu. Il est obligé d'en s'en occuper un peu plus. Donc maintenant, il fait quasiment tout. Il repasse. Ça m'a beaucoup choquée. Il l'a fait avec beaucoup de réticence, mais il a fini par craquer. Par contre, il refuse de coudre les boutons. Donc les rôles restent assez traditionnels. Les boutons restent du ressort de ma mère.
Comme quoi, ça t'a choqué toi-même alors que tu fais des études de
non,
genre.
Ça m'a choqué le connaissant.
D'accord.
Parce que donc j'ai appris récemment à faire des ourlets. J'ai demandé à ma mère de m'apprendre. Et mon père passait par là et je lui dis, bah viens. Enfin, je veux dire, toi aussi, tu veux apprendre à faire tes ourlets, quoi. Et il était là. Non. Alors je fais, mais pourquoi? Il fait, mais c'est une tâche de femme.
D'accord.
Donc voilà, c'est très ancré en lui. Donc c'est très ancré dans l'esprit de mes parents, plus de mon père que ma mère. Mais maintenant, ça va mieux. Il s'y met.
D'accord. Est-ce que tu t'es déjà interdit de faire quelque chose parce que tu étais une femme?
Interdit de faire quelque chose? Je pense pas.
Genre partir avec un sac à dos en Asie, au fin fond de l'Asie, toute seule.
Basiquement, à cette question, quelque part, on peut tous et toutes répondre oui. Par exemple, une femme ne se tient pas assise en public de la même manière qu'un homme. A priori, elle porte une jupe, elle écarte pas les jambes comme les mecs peuvent.
Elle fait bien ce qu'elle veut, figure.
elle peut, mais, non, mais finalement.
C'est très vrai. J'ai fait une petite enquête avec d'autres dans le métro. On observait les hommes et les femmes dans le métro. Et c'était complètement flagrant, les hommes qui s'étalent, qui prennent trois places, qui étendent leurs jambes, etc. Alors que les femmes, elles vont se tenir toutes serrées avec leur sac sur leur giron ou des choses comme ça. Donc depuis, j'essaie de lutter contre moi-même et d'écarter un peu plus les jambes quand quelqu'un s'installe de façon inappropriée. Non, mais vous savez, genre quand vous êtes toutes tassées sur votre siège et qu'il y a un type qui prend la moitié de votre siège. Genre là, non, moi aussi, j'ai le droit de me mettre à l'aise si ça me chante. Mais oui, ça va être sinon des petites censures de tous les jours, genre ah, je vais rentrer tard ce soir, donc je vais pas mettre de jupe, je vais pas mettre de talons. C'est pas vraiment des interdictions, mais c'est des espèces de soucis constants de l'apparence que vont avoir les femmes quand elles circulent dans l'espace public et à plus forte raison la nuit.
Cette question d'autocensure, effectivement, qu'on connaît à peu près toutes, je pense. Quels sont tes modèles féminins, si tu en as?
Modèles féminins, j'ai beaucoup d'admiration pour l'auteur Ariane Fornia. Qui a écrit un livre de chronique quand elle avait 14 ans, qui a été publié à Des Noëls. Et vraiment, il y avait une profondeur et un ton. Et vraiment, cette femme est rentrée à l'ENS et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour elle.
D'accord. Et si un jour, ta fille te demande pourquoi son collègue masculin gagne plus d'argent qu'elle, qu'est-ce que tu lui diras?
Je pleurerai. Je lui dirais que la société est injuste et vraiment qu'il y a un présupposé qui va peser sur elle, qu'un jour elle partira en congé maternité et qu'elle sera un coût pour l'entreprise et qu'on essaie de répercuter ce coût par anticipation en limitant son salaire, mais que c'est pas normal et qu'il y a aussi une espèce de deuillère que comporte tous et toutes, même les étudiants en genre, de sexiste, qui fait qu'on va pas forcément penser à mettre les femmes et les hommes sur le même plan. On va les comparer à d'autres collègues féminines, j'imagine, mais pas forcément à leurs collègues masculins.
Et est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu te sens militante concernant la question du genre? Et si oui, comment?
Alors oui et non. J'ai des difficultés à m'affirmer comme militante parce que je ne suis dans aucune association, je participe assez peu aux manifestations ou à des événements comme ça, militants. Mais oui, je pense que je suis quand même militante à ma petite échelle, en essayant, par exemple, de déconstruire mes propres préjugés vis-à-vis d'autrui. C'est quelque chose de tout bête, mais par exemple, c'est vrai, quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on va essayer de savoir sur cette personne, c'est si c'est un homme ou une femme. C'est tout bête, mais c'est vraiment, on va la ranger dans une case, c'est la première information. Bah, j'essaie de me dire, oui, bah, parfois, il y a des personnes, on ne sait pas si c'est des hommes et des femmes, et c'est pas grave, on peut quand même les traiter comme des êtres humains. Et un peu plus loin, c'est pareil, cette question de l'orientation sexuelle. Enfin, la question de se poser, ah, est-ce que cette personne est hétéro ou non ? Bah, finalement, enfin, quelle que soit sa sexualité, ça ne m'empêche pas de l'aborder comme une personne et ça ne va rien changer dans ma relation avec elle.
Et pour terminer, juste très rapidement, moi, je voudrais revenir quand même sur cette question. Finalement, on voit, quand on parle un peu de genre, à quel point on peut être enfermé, aussi bien les hommes que les femmes, dans des identifications qui ne correspondent pas forcément à la réalité, que ce soit en termes de pratiques sociales ou autres. Finalement, pourquoi est-ce qu'on a si peur des théories du genre ? Enfin, des études de genre, pardon.
Bah, encore une fois, l'idée que ça va déconstruire des choses naturelles, parce que toute notre société repose sur ces présupposés sexués. Enfin, quand tu regardes la loi, je sais pas, je pense par exemple au moment de la gestation, c'est quand même très différencié selon le sexe, le traitement, etc. Donc, il y a l'idée qu'on va déconstruire vraiment le pilier de notre civilisation et que c'est terrible, cette question de l'homosexualité, hétérosexualité, etc. Je pense que c'est vraiment la base.
Ok, et bien tu as, il nous reste 20 secondes pour te présenter Myriam. Myriam Château, qui es-tu Myriam ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, je suis actuellement en doctorat de sociologie à l'EHESS. Avant ça, j'ai fait Hippocane-Cane-BL pendant 3 ans au lycée Stanislas et j'ai fait un master, toujours à l'EHESS, en genre, politique et sexualité. Et oui, les gender studies, c'était moi.
Et tu travailles donc sur la question des pères au foyer. Oui. Aujourd'hui, tu t'intéresses au congé paternité ?
Oui. Enfin, à la souscription par les pères du congé parental. Enfin, c'est pas la même chose que le congé paternité. D'accord. De 14 jours. Hein. C'est bien cette réforme qui vient de passer et le fait que le deuxième parent, donc en général le père, est amené à prendre 6 mois s'il veut pas que ces 6 mois sur les 2-3 ans soient perdus.
D'accord. Donc là, tu es en première année de thèse et il te reste encore quelques années avant qu'on puisse lire tes résultats. On les annoncera si Déshabillé Moi existe encore dans 3 ans.
Bien sûr, je viendrai en parler avec voilà. Beaucoup de plaisir dans Déshabillé Moi, dans 4-5 ans si j'ai des financements.
Eh bien, on espère bien te revoir parmi nous. Merci beaucoup Myriam Château d'avoir été avec nous ce soir. Merci, merci aussi Anaïs. Ouais.
Mais merci à toi Mélanie aussi. Donc Déshabillé Moi, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dans un mois. Et le 20 février...
Oui, le 20 février.
Bah oui, le 20 février, quand même, il se passe quelque chose. C'est Dessine-moi un mouton. Et Dessine-moi un mouton s'attaque au sujet complexe de la prostitution et reçoit Gwenaëlle Manon.
Mincent. J'écris très mal. Gwenaëlle Manon.
Mélanie écrit trop mal.
Gwenaëlle Mincent et Vincent Rubio. Donc, on va traiter des questions de la répression policière sur les prostituées et de la prostitution homosexuelle et masculine sur Internet. Ça va être assez sympa. On va apprendre plein de choses. Et puis, si on a un peu de chance, normalement, si tout va bien, on aura un représentant du Stras parmi nous aussi.
On aimerait bien. Donc, on se retrouve pour Dessine-moi un mouton le 20 février à 20h. On remercie Maxime d'avoir réalisé cette émission. Merci, Maxime.
De rien.
Et Déshabillé-moi, on vous retrouve dans un mois, jeudi à 20h.